Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John Jay Lake aux États-Unis, session 8 sur 19. Alors, allons faire la lecture du troisième chapitre de la première épître aux Corinthiens à partir du verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alors, vous pouvez noter que dans la manière de s'exprimer, la manière de Paul de s'exprimer, il était une personne très analytique et il amenait souvent deux pensées en contraste, deux pensées en comparaison. Alors, nous voyons encore ici cette manière de s'exprimer. Et dans 1 Corinthiens 3, il va prendre presque tout le chapitre pour comparer et faire le contraste entre une personne spirituelle et une personne charnelle. Et il est évident qu'une personne spirituelle, évidemment, elle est spirituelle, et qu'une personne charnelle est une personne qui n'est pas spirituelle. Paul explique qu'un chrétien charnel sont comme des bébés dans la foi. Alors cela devrait impliquer qu'un chrétien spirituel ne sont pas des bébés dans la foi, mais qu'ils sont matures spirituellement. Alors lorsque nous utilisons le mot spirituel, nous devrions dire mature spirituel. Lorsque nous lisons le mot charnel, nous pourrions lire immature spirituellement. Alors qu'est-ce que Paul a à dire à ces chrétiens non matures spirituellement? Il leur a dit, je vous ai nourri avec du lait et non avec de la viande, parce que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. J'aimerais ici un peu revenir sur ce verset. Paul a dit, parce que vous êtes des enfants, des bébés, je ne peux pas vous donner de la viande. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le faire. Et puisque vous êtes encore des bébés, je ne peux pas non plus encore vous donner de la viande. Alors, vous pouvez lire vous-même, c'est là, c'est écrit. Alors, si nous avons des questions sur ce passage, n'est-ce pas ce que Paul a dit? Est-ce que le texte est clair? Qu'il ne peut pas donner aux Corinthiens de la viande parce qu'ils sont immatures. On comprend? Il ajoute, en fait, il va décrire maintenant un aspect de la vie charnelle. Alors au verset 3, « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Alors on comprend bien qu'est-ce que Paul définit là comme la vie charnelle. Alors en quelques mots, il leur dit, « Si vous continuez d'agir comme des humains non régénérés, en fait, vous êtes des gens charnels. » Alors, vous vous dites peut-être, alors comment faire? Comment marcher d'une manière correcte? Je vous l'ai dit hier, on ne vous a jamais dit de marcher comme des êtres humains normaux. On vous a demandé 5 fois dans la Bible de marcher et d'agir comme des fils et des filles de Dieu. Alors, pour marcher de cette manière, l'exemple que vous avez, le seul exemple d'un fils de Dieu mature, c'est Jésus. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas nul autre. Et je vais vous le démontrer. Il a dit au verset 3, au verset 4, « Quand l'un dit, « Moi, je suis de Paul, et un autre, « Moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? » En d'autres mots, aussi longtemps que vous allez centrer sur Paul, ou que vous allez essayer de suivre Paul, et si j'ai des préférences entre les serviteurs de Dieu ou les gens, je suis charnel, c'est ce que Paul a dit. Un chrétien vraiment spirituel n'est pas vers Paul, n'est pas vers Apollos, et il n'est pas vers Joël, il n'est pas d'André, et ni aucun autre apôtre ou aucun autre ministre de l'Évangile. Il va vers Jésus, parce que Jésus est notre seul exemple. Alors, continuons. Qui est donc Apollos? Au verset 5, qui est donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. Alors, vous vous souvenez de quoi Paul est en train de parler? Vous êtes charnels, immatures, des chrétiens immatures, et je ne peux pas vous donner de la viande, je ne peux vous donner que du lait, parce que vous ne pouvez pas digérer la viande. Jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Vous êtes encore charnels, je ne peux pas vous donner de viande. Alors, il leur a déjà dit, à cause de leur aspect charnel, ils n'auraient pas de viande. Alors cela veut dire qu'il n'y a pas de viande dans le livre des Corinthiens, n'est-ce pas? Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de substance. Alors cela veut dire actuellement qu'on ne peut même pas retirer de la viande de ce livre. Et la chose incroyable, 9 chapitres plus tard, il donne une définition complète des dons du Saint-Esprit et entre même dans des détails. Ce qui veut dire que même les dons de l'Esprit ne sont pas considérés par Paul comme de la viande, parce qu'il a déjà dit qu'il ne donnait pas de viande aux Corinthiens, mais du lait. Alors croyez-moi, lorsque j'ai réalisé cela, je n'ai pas plus aimé ça que vous, hein, parce que cela a changé toute chose dans ma compréhension. Continuons la lecture. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez bien lu, comme moi? Il ne dit pas que c'est difficile pour moi de le dire, mais plutôt il est difficile pour vous de l'entendre parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous comprenons que parfois, les gens à qui vous prêchez peuvent rendre difficile ce que vous avez à dire. Je peux vous dire, de mon cœur, et je ne vais pas mentir non plus devant vous, ce n'est pas difficile de prêcher chez vous. Je peux ressentir votre foi, vous désirez cet enseignement, et cela veut dire que vous avez une faim, une soif pour la parole de Dieu. Mais au même moment, comme la Bible dit, vous désirez que je vous prouve ce que je dis. Vous voulez vérifier si c'est vrai. Alors, vous n'êtes pas là pour accepter tout ce que je vais dire, n'est-ce pas? Mais vous voulez connaître la vérité. Et j'aimerais vous dire, cela est une bonne attitude. Et c'est l'attitude que nous devons tous avoir. Ne pas accepter tout ce qu'on nous dit et vérifier dans la Bible. Et lorsque vous allez quitter ce lieu, vous devriez vous entretenir sur ce que je vous dis. Et ce qui est encore plus important, vous devriez vérifier dans votre Bible et lire et vous assurer que ce que je vous ai dit est vrai. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que je dis est facile à comprendre, mais vous allez vous appliquer à étudier et l'Esprit de Dieu va vous le révéler. Et même si parfois c'est difficile, vous allez voir quand même la vérité, parce que parfois la correction nous change, nous transforme. Ce n'est pas toujours agréable d'être corrigé ou repris lorsque la chose se produit. Mais par la suite, cela vous rend la vie plus facile spirituellement, parce que c'est la vérité. Et si vous faites ces choses, alors les autres textes de l'Écriture s'ajouteront à cette connaissance. Et ce sera plus facile pour vous de croire ce que Dieu dit. Et vos doutes vont fuir au loin. Beaucoup de vos doutes vont diminuer. Ce sera différent de ce que c'était avant. Et vous verrez vraiment Dieu tel qu'il est. Il est bon. Et que Dieu aime réellement tous et chacun, et qu'il va vous utiliser pour démontrer cette vérité. Alors continuons notre entretien. Au verset 12. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, vous comprenez bien ce que Paul dit là. Et là, il parlait à des Hébreux, à des chrétiens hébreux. Ça fait depuis assez longtemps que vous êtes dans la foi, que vous-même devriez être capable d'enseigner les autres. Mais au lieu de cela, je dois encore venir vers vous et vous enseigner la base de la foi. Et à cause de cela, je ne peux pas non plus vous donner de viande. Alors Paul est en train de leur dire la même chose qu'il a dit à l'église des Corinthiens. Il leur dit qu'ils sont des bébés spirituels, qu'ils ne sont pas matures, qu'ils sont charnels et non spirituels. Parce que tant et aussi longtemps que vous buvez du lait et que vous ne mangez de la viande, vous demeurez un bébé en Jésus-Christ. et nous le verrons encore dans quelques moments. Il ajoute, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Alors, revoyons encore cette phrase. Il est dit que si nous utilisons du lait et non pas de la viande, nous sommes un bébé en Christ. Et si c'est le cas, voici la manière de déterminer si vous êtes un bébé en Christ. Parce qu'un bébé en Christ n'a pas l'expérience de la parole de justice. Nous avons la tendance de dire qu'il parle de la Bible, là, évidemment, se réfère à la Bible. Et c'est vrai, oui, mais remarquez qu'il appelle cela la parole de justice, parce que c'est la clé de toute chose dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la justice, si vous n'avez pas le droit de vous tenir devant Dieu, si vous n'êtes pas dans un état envers Dieu qui vous permet de l'apprécier, alors rien de la vie chrétienne ne va pouvoir s'appliquer à vous. Ni les bénéfices, ni la bénédiction. J'aimerais vous expliquer cela. Lorsque Paul utilise le mot « justice », et lorsque je vous demande d'être dans une position correcte devant Dieu, que vous êtes vraiment au lieu où Dieu vous a placé, à cause du sang de Jésus. Peut-être que vous avez cru, lorsque je vous ai dit qu'on doit être dans l'état ou la position que nous devions être devant Dieu, peut-être que pour vous c'est « Ah, oh, je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, je ne fais pas assez de bien, je ne fais pas tout ce que je devrais faire. » Et si je devais faire toutes ces choses, là, je serais dans un état d'âme ou dans la position à laquelle je devrais être devant Dieu. Oui, vous devriez prier, jeûner et faire le bien. Mais cela ne vous fait pas de vous un être juste. Seulement le sang de Jésus vous place dans cet état privilégié où vous pouvez recevoir la justice de Dieu. Immédiatement, vous êtes devenu justice et nous pouvons par la suite marcher dans cette justice. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre. C'est quelque chose que nous recevons. C'est ce que je veux dire par justice. Alors, lorsque nous parlons de ce mot, cette parole de justice, lorsque Paul démontre que vous ne connaissez pas la parole de justice, ce qu'il a voulu dire, c'est que vous n'avez pas l'expérience de comprendre la parole de Dieu en relation avec votre position de juste devant Dieu. C'est pourquoi il écrivait aux Hébreux, aux chrétiens hébreux. Vous vous souvenez? Je vous ai dit déjà que les Hébreux chrétiens essayaient de retourner sous la loi. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit l'Épître aux Hébreux. Et au verset 14, il ajoute, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors un homme mature devient un homme spirituel. On note ici, dans le verset 14, le mot « usage ». Usage est une action, est une quelconque action. Alors, le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, lorsque nous devenons matures parce que nous appliquons la parole de Dieu, alors vous avez expérimenté parce que vous l'avez exercé, mis en pratique. Vous avez accompli la parole de Dieu, alors vous pouvez déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu est Dieu et le diable est le diable. Dieu est avec vous et le diable est contre vous, c'est un adversaire. Dieu n'est pas votre problème. Dieu n'est pas votre adversaire. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes dans sa maison. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut demeurer. Dieu est pour vous. Il veut que vous soyez en santé. Il vous veut heureux. Il vous veut rempli de sa puissance, afin que vous puissiez manifester sa puissance envers d'autres. Continuons au chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Alors, laissez-moi répéter cela. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Paul affirme que le renoncement aux œuvres mortes est un fondement et que nous ne devons pas continuellement ramener. Pourtant, c'est ce que nous faisons continuellement, à chaque dimanche. La repentance des œuvres mortes, la repentance des œuvres mortes, de telle chose, de telle autre, toujours la repentir. À un moment donné, une fois que vous vous êtes repenti de ces péchés, vous devez croire que Dieu vous a pardonné, parce qu'il vous a entendu dès la première fois. Et après que vous vous êtes repenti, à chaque fois, lorsque vous revenez, que vous répétez la même chose, vous faites simplement ramener à l'Esprit de Dieu des choses qu'il a déjà oubliées. Vous vous en souvenez, parce que votre pensée n'est pas encore renouvelée et que vous pensez comme des humains, que vous devez payer pour vos péchés passés jusqu'à ce que vous avez souffert suffisamment. Et éventuellement, Dieu dira, « Bon, maintenant je te pardonne. » Ce n'est pas ce que Dieu fait. Alors, lorsque nous allons à lui, vous confessez, on confesse le péché, et il nous libère. Il oublie nos péchés. Et Dieu le fait de cette manière. Et si nous continuons à pécher, alors vous ne vous êtes pas vraiment repenti. Repentir veut dire se détourner du mal, de changer notre pensée, notre agissement. Alors vous devez vous repentir une fois pour toutes, laisser le péché à l'autel et marcher dans la justice. Et arrêter de faire ces péchés-là. Et commencer de faire ce que vous devez faire. Et arrêter d'amener Dieu à se souvenir de vos péchés passés. Paul a dit, j'oublie ce qui est derrière et je cours vers ce qui est devant, vers l'appel divin, vers le prix qui est en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas avancer si vous regardez continuellement derrière. Vous êtes une nouvelle création. Alors sortez du péché et marchez en nouveauté de vie. Ce que j'enseigne ici, ce sont deux choses. On parle ici comment guérir les malades, mais en même temps, je vous enseigne comment marcher en santé. Parce que si vous vivez une vie chrétienne victorieuse, alors la maladie ne va pas vaincre sur toi. Et vous serez en santé. Et si la maladie vient vers vous, vous allez facilement l'éloigner. Parce que vous comprenez qui vous êtes en Dieu et que la maladie n'a aucun droit en vous. Et même si vous faites des erreurs et que la maladie est là, vous vous repentez et vous vous détournez du mal et vous rejetez cette chose. Et la guérison va venir en vous et vous marchez dans la guérison. C'est simple, c'est ce que la Bible enseigne. Le problème de beaucoup de gens vient lorsqu'ils font face à ce que je viens de vous dire. Et ils essaient aussi de tenir, ils se souviennent de leurs vieux péchés. Nous n'avons pas besoin de placer des pansements sur notre esprit. Nous devons reconnaître qu'il doit mourir, l'esprit humain. Nous devons vivre une vie de ressuscité. Dieu n'a jamais dit qu'il allait réparer notre esprit. Il nous a demandé de mourir et qu'une nouvelle personne serait née en nous et que nous devons marcher dans cette nouvelle nature. Alors là, ces problèmes-là ne nous toucheront même plus. Alors, lorsque nous avons encore des problèmes, cela signifie que nous ne sommes pas encore morts dans ces domaines. Mais nous devons comprendre qui nous sommes en Dieu et ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance. Voilà la clé. Alors, nous continuons dans la fin du verset 1. Alors, nous avons dit ne pas, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, pour Paul, tous ces thèmes signifiaient la base, cela signifiait le lait spirituel. Vous devez arriver à un point où ces choses ne sont pas nécessaires pour vous, où vous allez plus loin vers la perfection, non pas revenir continuellement à poser le même fondement. Beaucoup de chrétiens semblent croire que lorsque la Bible parle du dimanche comme le premier jour de la semaine, que ce que nous devons faire le dimanche, c'est de recommencer à chaque fois, à chaque semaine. Et souvent, c'est la même chose à l'Église, on recommence à toutes les semaines. Encore la même chose, dimanche après dimanche, on retourne en avant à l'autel. On demande pardon pour le même péché et on recommence la semaine d'ensuite. Et Dieu nous lave encore à chaque semaine. Et c'est un cycle continuel. Le problème avec cela, c'est que vous avez seulement 7 jours à la semaine et vous devez recommencer à nouveau. Et peu importe comment spirituel vous redevenez, le dimanche suivant, vous allez à l'église, encore la même histoire. Notre vie devait être dans une montée continuelle, parce que la parole de Dieu l'a dit, que le sentier du juste est quelque chose qui devient de plus en plus lumineux. Et l'apôtre dit que nous devons aller de foi en foi, de victoire en victoire. Chaque jour devrait être meilleur que la journée d'hier. Vous devriez connaître Dieu mieux que la semaine dernière. Mais souvent, nous revenons toujours à la base. Nous demeurons là comme des enfants. Alors cela veut dire que nous n'accomplirons jamais plus pour Dieu que nous avons fait la semaine dernière. Et nous croyons que ce genre d'attitude démontre à tout le monde combien spirituel je suis. Parce que nous avons pleuré beaucoup sur nos péchés. Mais pour une personne spirituelle, cela démontre où vous trouvez. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de toujours revenir au point de départ, mais de demeurer fort afin que vous puissiez voir Dieu agir. Alors jusqu'à maintenant, nous avons discuté sur l'Épître aux Corinthiens, 3e chapitre, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 5 et le 6, et nous avons parlé du lait et de la viande, et d'être charnel ou spirituel, et des bébés en Christ dans la foi. Maintenant, allons vers une étape suivante. Et je vais vous montrer spécifiquement ce qu'est le lait et ce qu'est la viande. Dans Jean chapitre 4, verset 5. Alors ici, c'est plutôt Jean chapitre 4, au verset 4. « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alors, est-ce qu'on peut visualiser un peu ce qui se passe là? Jésus va au puits. Il y a une femme qui est là. Jésus est fatigué. Il s'assoit. Et il demande à la femme de l'eau. Alors voici ce qu'il ajoute. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passait à ce lieu-là? Jésus demande à boire. Elle lui a dit, « Tu es juif, je suis samaritaine. Nous n'avons aucune relation ensemble. Mais pourtant, tu me demandes quelque chose? » Et Jésus lui dit, « Si tu savais qui je suis, toi-même tu m'aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. » Il parlait de l'eau active, non pas de l'eau stagnante, de l'eau active, de l'eau qui coule. Souvenez-vous cela. Continuons la lecture. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, on ne parle pas d'eau ici. Alors, on lui parle de l'Esprit-Saint. Et il lui dit, « Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Et cependant, même aujourd'hui, nous avons des gens, des chrétiens, qui à chaque dimanche supplient Dieu parce que nous croyons que c'est une marque de spiritualité, de pleurer et de mendier pour montrer à quel point nous avons soif. Mais pourtant, Jésus a dit, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous mendions et demandons à Dieu l'Esprit, nous lui disons finalement que nous n'avons pas bu l'eau qu'il nous a déjà donnée, l'eau de l'Esprit-Saint. C'est ce que nous disons par notre action. Alors, je dois admettre que les chants, oui, les cantiques sont merveilleux, mais ce n'est pas un beau cantique qui va m'amener au ciel. C'est d'être juste devant Jésus. C'est d'avoir ma pensée renouvelée qui va amener un changement dans ma pensée, que lorsque je vais découvrir que ce que je pense n'est pas en accord avec ce que Jésus a dit. Alors, lorsque vous prenez conscience de ce que Dieu dit, nous devons changer. Alors, autrement, ce que nous avons, cette soif que nous avons n'est pas réelle. Nous voulons dire à Dieu, oui, je t'aime, je veux te connaître mieux, mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu nous a déjà dit. Alors, si on dit à Dieu que nous n'avons pas l'eau vive, alors vous ne pourrez jamais la donner à d'autres. Et pourtant, c'est cet esprit que vous devez donner à d'autres. Alors de retourner sans cesse vers Dieu pour lui demander avec supplication, donne-moi ton esprit, n'est pas en accord avec ce que Jésus a dit. Donc nous devons accepter ce que la parole de Dieu nous donne, recevoir cette vérité et nous pourrons donner librement ce que Dieu nous a donné en allant vers les gens et en répandant sur eux cette source d'eau vive qui est en nous. Arrêtons encore pour un moment, nous allons à une pause.